Marianne, chapitre 13. Marianne s'était arrêtée en effet, c'est-à-dire qu'elle avait mis Suzon au petit pas pour parler à Marichette, sa métayère, qu'elle venait de rejoindre non loin de Dolmore. La Marichette était assise sur des sacs d'avoine à l'arrière d'une longue charrette à bœufs que conduisait, avec l'aiguillon, son mari à pied. Le chemin était trop étroit pour permettre à un cheval et même à un piéton de passer entre la roue et la haie. Les bœufs n'allaient pas vite. Suzon flairait l'avoine qu'on venait d'acheter pour elle et, reconnaissant son monde, avait allongé son nez jusque sur les genoux de la métayère, qui lui caressait le front tout en rendant compte à sa bourgeoise des moutons gras qu'elle avait vendus au boucher et des cochons qu'elle avait marchandés sans en trouver de passable à un bon prix. Pendant ce dialogue, Marianne, laissant Suzon à elle-même, la bride passée dans son bras, avait pris l'attitude nonchalante d'une personne pensive ou fatiguée. Tout à coup, avisant une belle branche de chèvrefeuille dans le buisson, elle poussa Suzon avec le talon sans lui faire sentir la bride et étendit ses deux bras pour cueillir la branche. Mais au même moment, le jeune Philippe, qui l'avait rejointe sans qu'elle le vît, laissant André un peu en arrière, s'élança vers le chèvrefeuille, brisa lestement la branche et l'offrit à Marianne avec l'aisance hardie et courtoise d'un enfant de Paris. À la vue de ce beau garçon inconnu, au regard plein de feu et au sourire plein de promesses, Marianne n'hésita pas à reconnaître le prétendant. Aucun autre habitant du pays n'eût eu cette audace et cette galanterie. Elle rougit un peu, puis se calma aussitôt, et lui dit avec un faible sourire, sans accepter la branche fleurie, « Merci, monsieur, ce n'est pas pour moi que je la voulais, c'était pour mon cheval qui en est friand. » « Eh bien, répondit l'artiste sans se déconcerter, je l'offre à votre cheval, qui voudra bien ne pas me la refuser. » Et il tendit le chèvrefeuille à Suzon, qui le prit entre ses dents sans cérémonie. Philippe s'était découvert en faisant le grand salut, qui consiste à lever le chapeau très haut et à le tenir au-dessus de la tête, comme quand on acclame un souverain ou un personnage populaire. Marianne avait repris les rênes courtes dans sa main, elle fit un léger salut, sans regarder Philippe, et, poussant dans le fossé Suzon, qui y entra jusqu'aux genoux, elle dépassa lestement et adroitement les grands moyeux de la charrette, les grandes cornes des bœufs, et disparut au galop dans le chemin tournant. Pierre sut gré à Marianne de cette sortie bien exécutée. Le moindre accident eût mis d'emblée Philippe au cœur de la situation. « Eh bien, dit-il à l'artiste en dissimulant un rire ironique, vous l'avez vu à votre aise. »« Charmante, répondit Philippe, la distinction même, de l'esprit, de l'aplomb, de la coquetterie aussi. Une vraie femme, enfin. Quel âge a-t-elle donc? Mon père dit qu'elle est plus âgée que moi. » « C'est une plaisanterie, elle a l'air d'une pensionnaire. »« Elle a 25 ans. »« Pas possible !»« Je vous le jure, elle ne voudrait pas que l'on cachât son âge. »« Eh bien, ça m'est égal, on n'a que l'âge qu'on paraît avoir. »« Moi, barbu déjà comme un turc, on me donne justement l'âge qu'on ne lui donnerait pas. »« On pourra nous peindre dans le même cadre, et ça donnera quelque chose de très assorti. » « La force et la grâce, sujet classique. »« Alors, vous voilà décidé ?»«
Oui, puisque me voilà épris. »«
Vous ne doutez pas du succès ?»«
Pas du tout. »«
Vous êtes heureux de compter ainsi sur vous-même. »«
Mon cher André, je compte sur deux choses qui sont en moi, la jeunesse et l'amour. Ce sont deux grandes puissances. » L'amour qui se sent et se communique, la jeunesse qui donne la confiance de se risquer et de s'exprimer. Il n'y a pas de vanité à dire qu'on est jeune et amoureux.
Vous avez raison. répondit Pierre, devenu triste et abattu. Il n'y a de vanité ridicule que chez ceux qui ont perdu la fraîcheur de l'inexpérience et l'ingénuité du premier mouvement. Ils étaient arrivés à un endroit où le chemin, devenu plus large, leur avait permis de dépasser la charrette, et ils approchaient du chalet de Pierre-André. Au loin, sur le même chemin qui gagnait la hauteur, ils aperçurent Marianne, qui avait remis sa monture au pas.
« Elle ne galope plus, » dit Philippe.
« Qui sait si elle ne pense pas à moi ?»«
Elle y pense à coup sûr, » se dit Pierre en lui-même, avec une sorte de déchirement.
Chapitre 14. Philippe Gaucher eut la mauvaise fortune de déplaire souverainement à Madame André. C'était pourtant un bon et honnête garçon, le cœur sur la main, l'âme ouverte comme sa physionomie. Mais Madame André ne voulait pas qu'un homme se permît d'être plus beau que son fils, qui n'était cependant pas ce qu'on appelle en province un bel homme. Il n'avait ni larges épaules, ni barbe noire, ni teint coloré, ni poitrine bombée. Il était intéressant, intelligent et modeste. Sa figure, comme sa personne tout entière, respirait la distinction d'une nature de choix. Aussi sa mère, qui n'avait jamais vu le monde et qui n'eût su définir en quoi la distinction consiste, avait-elle un critérium certain dans ses moyens de comparaison? Elle fut choquée d'une certaine vulgarité qui filtrait, pour ainsi dire, à travers toutes les paroles, tous les gestes, toutes les attitudes de Philippe, et elle en conclut que ses idées et ses actions étaient les conséquences de son type. Elle ne manquait pas de cet esprit naturel et gouailleur qui est propre aux habitants du centre, aux femmes particulièrement. Elle le railla donc finement pendant tout le dîner, sans qu'il daignât s'en apercevoir. Il est vrai que, les devoirs de l'hospitalité passant chez elle avant tout, elle lui avait fait fort bon accueil et l'accablait de petits soins. Philippe, ayant appris que les André dînaient le lendemain chez Mademoiselle Chevreuse et qu'on saisirait l'occasion pour le lui présenter, trouva ses affaires plus avancées qu'il n'y comptait, et ne manqua pas de dire qu'il avait une étoile propice tout au beau milieu du ciel.
« Laquelle est-ce ? » lui demanda malicieusement Madame André.
« Je ne sais pas son nom, » répondit-il gaiement. « Je ne connais pas l'astronomie, mais quand je regarde la plus grosse et la plus belle, je suis bien sûr que c'est la mienne. Est-ce que vous ne croyez pas à l'influence des étoiles, ami Pierre ?»«
Si fait. » J'y crois pour Napoléon et pour vous. Si les simples mortels comme moi ont le patronage d'un astre, le mien est si petit et si haut perché que je n'ai jamais pu l'apercevoir. »
Philippe avait prolongé la soirée d'une façon inusitée à Dolmore, sans se douter que la vieille dame se couchait à 9 heures. Pierre, voyant la pendule marquée 11 heures, dit à son hôte :
Vous devez être là du voyage. Quand vous voudrez que je vous conduise à votre chambre, vous me le direz.
« Je ne suis jamais là, » reprit Gaucher. « Rien ne me fatigue, mais ce roulement de diligence m'est resté dans la tête et m'endort un peu. Donc, si vous voulez le permettre... »
Pierre le conduisit à une petite chambre d'amis, toute neuve et très fraîche, dont le peintre ouvrit les persiennes afin, dit-il, d'être réveillé par la première aube. Il prétendait aller explorer la campagne, afin de choisir le motif qu'il aurait à peindre les jours suivants.
« Dormez en paix, » lui dit Pierre. « Je m'éveille avec le jour et je viendrai vous chercher, si vous voulez que je vous conduise aux plus beaux endroits de notre vallée. »«
Merci, » répondit Philippe. « Mais franchement, j'aime mieux aller seul à la découverte. » L'artiste est gêné quand il lui faut recevoir le contre-coup d'une autre appréciation que la sienne.
C'est-à-dire, pensa Pierre-André,
que tu veux aller importuner de la curiosité Marianne jusque chez elle. J'y veillerai, mon garçon. Elle ne t'appartient pas encore. Son parrain a encore le devoir de la protéger. » Il rentra dans sa chambre, et, pour se débarrasser de sa mauvaise humeur, il eut envie d'écrire. Mais il chercha en vain le carnet qu'il avait commencé la veille. Il ne le trouva pas, et ne se souvenant pas bien de ce qu'il avait écrit, il eut quelque inquiétude de l'avoir perdu durant sa promenade. Il se rappela qu'en rentrant, il avait posé son bâton et son sac dans le salon, et il descendit pour voir si le carnet ne s'y trouvait pas. Il y rencontra sa mère, qui, elle aussi, paraissait agitée. « Qu'est-ce que nous cherchons ? » lui dit-elle. « Un mauvais petit livre de poche où j'écris mes notes. »« Il est là, » dit-elle en ouvrant un tiroir. « Je l'ai trouvé ce matin en rangeant, et je l'ai serré. »
« Si tu l'as lu, »
reprit André en mettant le carnet dans sa poche, « tu as dû me croire fou. »«
Lu ? Mon Dieu, non ! Je ne suis pas curieuse de l'écriture, que je n'ai jamais lu bien facilement. Mais pourquoi me dis-tu que tu peux paraître fou ? » ?»«
Parce que... Dis-moi d'abord pourquoi tu parais, toi, inquiète et contrariée. »
Oh, moi, je peux le dire. Je suis furieuse de penser que nous allons conduire ce joli cœur à Marianne, et que, l'ayant reçu et accueilli, nous voilà forcés de le trouver charmant devant elle. Eh bien, non. Quant à moi, je ne ferai pas ce mensonge. Je le trouve ridicule et insupportable, et je ne promets pas de ne pas laisser voir ce que je pense de lui.
« Tu le juges trop vite, » répondit Pierre en s'asseyant auprès de sa mère, qui s'était jetée avec humeur sur le sofa.
« Ce n'est ni une bête ni un méchant garçon. Ses manières, qui ont trop d'aplomb, j'en conviens, plairont peut-être à Marianne. Qui sait ? Marianne n'a peut-être pas tout le jugement que tu lui attribues, et que, sur ta parole, je lui ai attribué aussi.
« Marianne a beaucoup d'esprit, » s'écria Madame André, « et beaucoup de raison. Tu ne la connais pas. »
« C'est vrai, elle est très mystérieuse pour moi. »«
C'est ta faute, tu lui parles si peu, et tu profites si mal des occasions de la connaître. »«
C'est un peu ma faute, mais encore plus la tienne. Je t'assure qu'elle aime le rôle de sphinx. Et moi, je n'ai pas la hardiesse de Philippe Gaucher pour soulever le voile de pudeur d'une jeune fille. Elle a beau être une enfant pour moi, c'est une femme. » Et je ne sais pas brutaliser la réserve d'une femme.
Chapitre 15. Madame André réfléchit quelques instants, puis elle prit la main de son fils et lui dit : « Tu es timide, trop timide, si tu l'avais voulu. C'est toi que Marianne eût aimé. Toi, toi seule qu'elle eût épousé. »
Tu me reproches un bien vieux péché. Il y a de cela 6 ans. Songe donc qu'il y a 6 ans, je ne pouvais déjà plus penser au mariage. »
Pourquoi ? Et ton vieux a 35 ans ?
On l'est assez pour juger son avenir par la comparaison avec le passé. Quand, à 35 ans, on n'a pas su faire fortune, on peut se dire qu'on ne le saura jamais. Et on doit se retirer des embarras et des émotions de la vie. »
« C'était raison de plus pour faire un bon mariage. »
Rechercher l'amour en vue d'un bon mariage, voilà ce que je n'ai jamais su faire et que je ne saurai jamais. »
« Oui, oui, je comprends, je te connais. J'ai aussi ma fierté et j'estime la tienne. Ce que je te reproche, c'est de n'avoir pas aimé Marianne pour elle-même. Elle le méritait bien. » Et elle eût été disposée à te le rendre. Quand l'amour se met de la partie, il n'y a plus ni tien ni mien dans les convenances de fortune.
C'est vrai, mais je n'ai pas cru que Marianne pourrait m'aimer. Si Philippe a trop de confiance en lui-même, moi je n'en ai peut-être pas assez. Et puis, je l'avoue, j'avais la passion des voyages, et j'espérais pouvoir recommencer.
un autre que moi, avec un peu d'adresse et d'entre-gens, eût rencontré une occasion comme celle que le hasard m'avait fournie. Je n'ai pas su aider le hasard. Je te l'ai dit 100 fois. Je ne suis bon à rien pour moi-même. Et à présent, tout est consommé. Je suis heureux de pouvoir au moins te donner un peu de bonheur. Ne gâtons pas notre vie présente par d'inutiles retours sur le passé. Tu dis que Marianne m'eût aimé. Elle sent bien que je ne m'en suis pas aperçue, et elle ne me le pardonnera jamais. Je m'explique maintenant la froideur qu'elle me témoigne, le soin qu'elle prend de me tenir à distance, et le « vous » cérémonieux qui a remplacé le bon « tu » d'autrefois. Une femme, si froide et si douce qu'elle soit, ne pardonne pas à un homme d'avoir été aveugle. Et à présent qu'elle va être dévorée par les yeux effrontés et clairvoyants d'un gros garçon sans scrupules et sans irrésolution, c'est à son profit qu'elle va se venger de ma sottise. Que la vengeance lui soit douce et qu'elle soit heureuse. Nous n'avons pas d'autre souhait à former. Je prétends m'exécuter de bonne grâce et approuver son choix sans arrière-pensée.
Tu as tort, mon Pierre. Si tu le voulais bien, il serait temps encore.
Mais tu ne le veux pas. Tu ne l'aimes pas, ma pauvre Marianne. C'est un malheur pour elle. Tu l'aurais rendue heureuse. Elle ne le sera pas avec un homme qui lui est par trop inférieur.
Si elle a la supériorité dont tu la gratifies, elle s'en apercevra à temps. Elle n'a pas encore dit oui.
Tu doutes qu'elle soit intelligente. Voilà où je te trouve bête, moi. Permets-moi de te le dire. Je sais bien que je ne peux pas être un juge pour toi et que tu dois te dire que je ne m'y connais rien. Je sais aussi qu'il est difficile de juger l'esprit d'une personne qui ne veut pas montrer celui qu'elle a. Mais quand on a envie d'aimer quelqu'un, on cherche. Et quand on aime, on devine. Si tu aimais...
Pierre baisa la main de sa mère avec une émotion qu'il réprima aussitôt. Il avait failli lui dire que depuis quelques jours, il était en proie à la tentation d'aimer et que peut-être il aimait déjà. Il se contint. S'il avouait sa souffrance, elle serait trop vivement partagée par sa mère, et celle-ci le pousserait à une lutte dans laquelle il n'osait pas croire qu'il pût triompher.
« Nous reparlerons de tout cela après-demain, » lui dit-il. « Voyons d'abord comment le gaucher prendra. Voici qu'il est tard, il faut dormir. Ne te tourmente pas, et sois sûr que je suis trop heureux avec toi pour beaucoup désirer être mieux. »
Rentré dans sa chambre, il résolut de décharger son cœur, et il ouvrit son carnet. À la dernière page de son monologue de la veille, il trouva une petite pensée sauvage, qu'il ne se souvint pas d'y avoir mise, mais qui le fit rêver.
« On devrait, se disait-il, faire un herbier de souvenirs. Une fleur, une feuille, un brin de mousse prendraient la valeur d'une relique, si ces cueillettes vous rappelaient un événement de la vie intérieure, une émotion du cœur ou un effort de la volonté. On se rappelle les dangers ou les fatigues de certaines conquêtes botaniques. On revoit les sites grandioses ou charmants qui vous ont vivement frappé. Mais c'est toujours le spectacle du monde extérieur qui est évoqué par ces vestiges. L'histoire de l'âme jouerait bien un autre rôle. » En ce moment, Pierre entendit marcher sur le bois retentissant des corridors et des escaliers du chalet. Puis on ouvrit la porte d'en bas, et il vit par la fenêtre Philippe Gaucher, qui paraissait vouloir aller en pleine nuit à la découverte de ses motifs de peinture.
Chapitre 16. Il était 1 heure du matin. La conversation de Pierre et de sa mère, dont nous n'avons donné qu'un court résumé, avait duré plus de 2 heures. Quelle fantaisie poussait l'artiste à sortir de la maison et de l'enclos avant le jour! Une subite indignation mordit le cœur d'André à l'idée que ce jeune fou, pressé de s'assurer une existence indépendante,
voulait compromettre Marianne pour arriver plus vite et plus sûrement à ses fins. Il le rejoignit en trois enjambées, comme il prenait résolument le chemin de Valida.
« Où allez-vous ? » lui dit-il d'un ton brusque. « Êtes-vous somnambule ?»«
Oui, » répondit Philippe, plus surpris que fâché de la surveillance de son hôte. « J'ai le somnambulisme de l'amour, qui va droit à son but sans savoir par où il faut passer. Mais je trouverai bien tout seul le manoir ou la chaumière de ma jolie campagnarde. C'est par ici que je l'ai vue s'éloigner hier. Vous m'avez dit qu'elle demeurait tout près du chemin, du côté des collines de droite. La nuit est claire, et il fera jour dans une heure. Ne vous inquiétez pas de moi, mon cher. Je serai désolé de déranger vos habitudes. »
« La première et la plus importante de mes habitudes, » répondit Pierre, « est de veiller à la sécurité de mes amis. »«
Vous êtes trop bon pour moi, vrai. J'aime mieux aller seul, je vous l'ai dit. »«
Ce n'est pas de vous que je me préoccupe, c'est de ma filleule. »«
Qui ça, votre filleule ?»«
Mademoiselle Chevreuse, que vous voulez, je crois, compromettre. »«
Elle est votre filleule ?»
« Tiens, tiens, alors tout s'explique. Je vous prenais pour un soupirant éconduit et jaloux. Mais du moment que vous êtes une espèce de père, je reconnais votre droit. Et je veux bien vous dire, vous jurez que je serai désolé de compromettre votre Marianne. Sachez, cher ami, que mes intentions sont pures comme le ciel. Hier, ma charmante fiancée a refusé une fleur que je lui offrais, disant qu'elle la voulait cueillir pour son cheval, et je l'ai offerte à son cheval, c'est-à-dire à sa jument, qui s'appelle Suzon, vous l'avez dit hier soir. Or, ce matin, je compte saccager tous les buissons du pays et faire une gerbe, une guirlande somptueuse de chèvrefeuilles que je suspendrai à la porte de Mademoiselle Chevreuse, avec ce modeste billet déjà écrit que j'ai dans ma poche. À Mademoiselle Suzon, son dévoué serviteur. Vous voyez qu'il n'y a pas de quoi se fâcher, et que votre filleule rira de l'aventure. Si votre ambition est de la faire rire, je pense que vous réussirez.
Vous espérez qu'elle rira à mes dépens ? Soit. La grande question, c'est que, sympathique ou moqueuse, elle s'occupe de moi, et vous m'obligerez en me tournant en ridicule. Je saurai bien prendre ma revanche quand elle aura la cervelle remplie et surexcitée par mes extravagances. Je compte en faire de toutes sortes, mais de telle nature cependant que son austère parrain n'est pas à me rappeler au respect que je dois à sa fille adoptive. »
Pierre eut envie de lui démontrer tout de suite que l'offrande à Suzon équivalait à une déclaration d'amour à Marianne. Déclaration qui pouvait d'autant plus faire jaser que les métayers, ne sachant pas lire et voyant ce bouquet à la porte, ne manqueraient pas de se dire que c'était un mets, c'est-à-dire un gage de fiançailles pour la demoiselle. Mais Philippe paraissait s'y décider qu'il fallait ou le laisser faire ou se fâcher, ce qui lui paraîtrait souverainement ridicule et brutalement contraire aux lois de l'hospitalité. Pierre feignit donc de prendre la chose en riant et le laissa s'éloigner seul en lui rappelant que sa mère déjeunait à 9 heures et qu'on partirait vers midi pour le dîner de Valida qui devait avoir lieu, suivant la coutume du pays, à 3 heures.
« Ne vous inquiétez pas de moi, » répondit Philippe, « et surtout ne m'attendez pas. Si je suis trop loin pour rentrer à l'heure de votre déjeuner, je trouverai du pain et du lait n'importe où. Sachez bien que nulle part un paysagiste n'est embarrassé de rien. J'ai fait d'autres explorations que celles de votre Suisse microscopique, mon cher. »
Pierre feignit de rentrer et prit à travers champs pour se rapprocher de Valida. Il voulait surveiller celui qu'il appelait en lui-même, avec un dépit dédaigneux, son jeune homme. Il eut un fou rire de contentement lorsqu'au bout d'un quart d'heure, il aperçut de loin Philippe s'arrêter en face du chemin creux qui descend vers Valida, puis continuer à monter sur le chemin découvert pour se diriger vers le castel de Morsan. Philippe,
en contemplant les toits de tuiles moussues de la métairie de Valida, tapis sous les gros noyers et ne présentant ni un pavillon ni une tourelle, n'avait pas voulu supposer que la dame de ses pensées pût habiter cette tanière de paysans laboureurs. Il avait avisé plus loin le castel pittoresque, et c'est là, chez des gentillâtres fort étrangers à ses amours, qu'il allait déposer son offrande. Chapitre 17. Pierre, résolu quand même à faire bonne garde autour de Marianne, rentra pour prendre son bâton et son sac de promenade, accessoires qui motivaient ses excursions habituelles et sans lesquelles on se fût étonné de le voir marcher comme au hasard dans la campagne. Dans le pays, on n'a guère le droit d'errer sans but déterminé. On passerait pour fou. Mais si on a l'air de chercher ou de recueillir quelque chose, on ne passe que pour savant, ce qui est moins grave, à moins qu'il ne se mêle à cette réputation quelque accusation de sorcellerie. Pierre avait assez de notions d'agriculture pour rester pratique en apparence. On supposait d'ailleurs, à le voir si curieux des ruines, des plantes et des rochers, qu'il était chargé par le gouvernement de faire la statistique du pays. Jamais le paysan du centre ne suppose qu'un particulier se livre à ses recherches pour son propre plaisir ou pour sa propre instruction. Le soleil était levé quand Pierre-André se trouva dans le bois de hêtre qui garnissait le ravin au-dessus de Valida. De là, caché dans les taillis, il pouvait explorer du regard et la métairie et les chemins environnants. Il vit qu'on s'agitait beaucoup dans la métairie, probablement pour le dîner que préparait Marianne, et vers 5 heures, il vit Marianne elle-même donnant des ordres, allant et venant dans la cour. Puis on lui amena Suzon, qu'elle monta et dirigea vers l'endroit du bois où coule le ruisseau. Pierre descendit rapidement la colline et se trouva en même temps qu'elle au petit gué. « Où vas-tu si matin ?» lui dit-il d'un ton d'autorité dont elle fut surprise. « Cela vous intéresse, mon parrain? Je vais chercher du beurre à la ferme de Morsan. Nous en manquons pour votre dîner, et moi, je prétends que rien ne vous manque chez moi. » « Envoie quelqu'un, Marianne, et ne va pas à Morsan. Ne va nulle part, je te prie. Ne cours pas la campagne aujourd'hui. Reste chez toi à nous attendre. Demain, tu sauras si tu dois interrompre ou continuer tes courses solitaires. » « Je ne comprends pas. » « Ou tu ne veux pas comprendre. Eh bien, sache que Philippe Gaucher a quitté Dolmore au milieu de la nuit pour t'apporter un bouquet. Seulement, il s'est trompé, et il l'a porté à Morsan ou ailleurs. Mais si tu vas par là, tu risques de le rencontrer. » « Eh bien, quand je le rencontrerai ?» « C'est comme tu voudras, je t'ai averti. S'il te plaît de courir après lui. » « Personne ne peut supposer que je sois si pressée de le voir. » « Il le supposera, lui. » « Il est donc fat à l'excès ?»« Je ne dis pas cela, c'est à toi de le juger. Mais il a beaucoup d'assurance, et cela, tu dois déjà le savoir. » « Oui, il a de l'assurance. Mais entre l'assurance et la sottise, il y a de la marge. Parlez-moi de lui, mon parrain, puisque nous voilà seuls. Je renonce à faire mes commissions moi-même aujourd'hui, du moment que vous me désapprouvez. Je vais rentrer, en disant que Suzon a boité et que je ne veux pas la faire marcher. Mais causons un peu, puisque nous nous rencontrons si à propos. » « Je ne te rencontre pas, je te guettais. » « Moi ? Vraiment ? » « Oui, toi. Je te dois conseil et protection, jusqu'au moment où tu me diras « Je connais ce jeune homme et il me convient. » Ce moment-là arrivera peut-être ce soir ou demain matin. Je ne pense pas que ma tutelle soit de longue durée au train dont Philippe veut mener les choses. « Vous croyez que je le connaîtrai ce soir ou demain ? Vous me supposez une intelligence que je n'ai pas. » « Ma chère, Tu as une prétention à la bêtise qui est une pure coquetterie.
Ah ?
Fit Marianne, qui écoutait et examinait Pierre avec une curiosité plus marquée que de coutume.
Dites toujours, mon parrain, expliquez-moi à moi-même. Je ne demande qu'à me connaître. Je fais, dites-vous, semblant d'être bête, et je ne le suis pas ?
Pierre fut embarrassé d'une question si directe et qu'il n'avait pas prévue.
Je ne suis pas venu pour te disséquer, répondit-il. Mon titre de parrain ne m'autorise qu'à te préserver des insultes du dehors. C'est de M. Philippe que tu désires que je te parle. Tu te montres très curieuse de ce qui le concerne, toi si indifférente à toute autre chose. Eh bien, je n'ai rien à te dire de lui, sinon qu'il est entreprenant et résolu à te plaire par tous les moyens qui seront en son pouvoir.
Il veut me plaire ? C'est donc que je lui plais ?
Il le dit.
Mais il ne le pense pas ?
Je n'en sais rien. Je ne veux pas supposer qu'il ne te recherche pas pour toi-même.
Qu'est-ce qu'il vous a dit de moi ? Il ne me connaît pas. Il ne peut pas me trouver jolie.
Il te trouve jolie.
Il ne peut pas le penser, n'est-ce pas, mon parrain ? Dites, je vous en prie.
En questionnant ainsi André, Marianne avait pris une physionomie animée, résolue et craintive tour à tour. Elle avait rougi, son regard s'était rempli d'éclairs fugitifs. C'était une véritable transformation. Pierre en fut vivement frappé.
« Tu l'aimes déjà, répondit-il, car te voilà jolie, et c'est lui qui t'apporte la beauté que tu n'avais pas. »«
S'il m'apporte la beauté, dit Marianne, qui devint tout à fait vermeille de plaisir. C'est déjà un beau cadeau qu'il me fait et dont je dois lui savoir gré. Je me suis toujours jugée laide et personne ne m'a encore détrompée.
Tu n'as jamais été laide et je ne sache pas l'avoir jamais dit.
Oh, vous, reprit-elle vivement, vous ne m'avez jamais regardée. Vous n'avez jamais su quelle figure je pouvais avoir.
Voilà encore de la coquetterie, Marianne. Je t'ai toujours regardée, avec intérêt.
Oui, comme un médecin regarde un malade. Vous pensiez que je ne vivrais pas. À présent que vous me voyez bien vivante, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de moi.
Tu vois bien pourtant que je ne me suis pas couchée cette nuit par inquiétude.
Mais quelle inquiétude, voyons! Quel danger puis-je courir avec M. Philippe Gaucher? N'est-il pas un honnête homme? À son âge, on n'est pas corrompu. Et d'ailleurs, je ne suis pas une enfant pour ne pas savoir me préserver des belles paroles d'un jeune homme.
Et il n'y a en effet que le danger de faire jaser sur ton compte avant que tu sois décidé à laisser dire. Toi qui crains tant les propos, jusqu'à ne pas me permettre de te voir chez toi.
Oh, vous, mon parrain, ce serait plus grave. On sait bien que vous ne m'épouseriez pas. Vous n'êtes pas dans le même cas qu'un jeune homme qui veut s'établir.
Que dis-tu là? C'est absurde. Je ne t'épouserais pas si j'avais eu le malheur de te compromettre.
Si fait, vous m'épouseriez par point d'honneur, et je ne voudrais ni vous mettre dans un pareil embarras, ni être forcée d'accepter le mariage comme une réparation.
Toutes les paroles de Marianne troublaient profondément André. Il s'était arrêté, elle dans l'eau où Suzon avait voulu boire, lui appuyé contre un bloc de grès. Le ruisseau coulait transparent sur le sable qu'il semblait à peine mouillé. Les arbres, épais et revêtus de leurs feuilles nouvelles, enveloppaient les objets d'une teinte de vert doux où se mêlait le rose du soleil levant.
« Marianne, dit André devenu tout pensif, tu es vraiment très jolie ce matin, et le jeune damoiseau qui s'est avisé de découvrir le premier ta beauté doit avoir un profond mépris pour moi, qui lui ai parlé de toi avec la modestie qu'un père doit avoir quand on lui vante sa fille. Il te le dira certainement.
Eh bien, que faudra-t-il croire ?
Il faudra croire qu'un homme dans ma position ne devait pas te regarder avec les yeux d'un prétendant, et qu'il n'est pas ridicule parce qu'il se rend justice.
Tu sembles me reprocher d'avoir été aveugle par dédain ou par indifférence. Ne peux-tu pas supposer que je l'ai été par honnêteté de cœur et par respect ?»«
Merci, mon parrain, » répondit Marianne avec un sourire radieux. « Vous ne m'avez jamais blessée par votre indifférence. Il m'importe peu d'être trouvée belle, pourvu qu'on m'aime, et je suis bien sûre que vous avez toujours eu de l'amitié pour moi. Si Monsieur Gaucher n'est pas un bon parti pour moi, vous me le direz, et je ne ferai que ce qui vous plaira. »
« Attendons à ce soir, Marianne. S'il te plaît, à toi, tout sera changé, et tu ne me demanderas plus conseil. »
« Il pourrait me plaire et vous déplaire. »«
Eh bien, s'il me plaît, tant pis, je ne vous écouterai pas moins. »«
Tu te moques, mon enfant. S'il te convient, il faudra bien qu'il m'agrée. »
Marianne changea de visage et redevint tout à coup la froide petite personne que Pierre connaissait. Il semblait que la résignation de son parrain l'eût blessée et que, lasse de vouloir provoquer en lui un élan de cœur, elle renonça de nouveau, et cette fois pour toujours, à être aimée de lui.
« Puisque vous me laissez si parfaitement libre d'esprit, lui dit-elle, je ne vais plus songer qu'à m'interroger moi-même. À tantôt, mon parrain. »
Et elle allait retourner sur ses pas, lorsque Pierre, emporté par un mouvement violent, saisit la bride de Suzon en s'écriant.
« Attends, Marianne, tu ne peux pas me quitter sur cette parole glacée. »«
Eh bien, parrain, » dit Marianne radoucie, « quelle parole dois-je vous dire ?»«
Une parole d'affection et de confiance. » »«
Ne vous l'ai-je pas dit en vous promettant de ne pas me marier contre votre gré ?»«
Et tu ne comprends pas que je ne peux pas accepter ta soumission comme un sacrifice ?»«
Ce ne sera peut-être pas un sacrifice, qui sait ?»
« Qui sait, oui, voilà, tu n'en sais rien encore. »
Et Pierre, intimidé et découragé au moment où il eût dû laisser déborder son émotion, lâcha la bride de Suzon et baissa la tête, mais pas assez vite pour cacher à Marianne deux larmes qui étaient venues au bord de ses paupières.